Marie-France, je pense qu'on a un peu la même impression. C'est que M. Botts a été très calme, il a été solide.
Oui.
Il a donné son point de vue, il n'a pas été agressif du tout. Et il a dit peut-être ce qu'on attendait du premier ministre, qui nous dit ça, que finalement, toute cette démarche, c'était la préoccupation de sauver quand même 9 000 emplois.
À travers
lui,
le Canada.
Dit.
Oui.
Et le premier ministre l'a pas
et
dit.
Et on se rend compte, ce témoignage-là était crédible, mais Judy Wilson-Raybould a eu l'avantage d'avoir été la première à donner sa version et d'avoir semé le doute. Et à cause de toutes sortes de choses et de qui elle est et de la crédibilité qu'elle a, d'avoir eu l'air d'une martyre et d'une femme très crédible qui venait s'exprimer. Et on se rend compte avec le témoignage de Gérald Botts que effectivement, si ça fait 5 semaines que la crise dure, si dès le départ Justin Trudeau avait pris sur lui, avait fait un mea culpa qu'il pouvait faire à ce moment-là et qu'il avait dit, écoutez, il y a 3 000 emplois au Canada, au Québec, 6 000 dans le reste du Canada, c'est un siège social qui s'il s'en va à Londres, on va perdre énormément. S'il avait dit pourquoi toute cette crise-là existe, probablement que ça aurait été un mauvais moment passé, mais ça ne lui aurait pas coûté cher comme ça lui coûte cher en ce moment. Et on ne sait pas jusqu'à quand il va arrêter de payer pour cette affaire-là. Parce que qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, donc, dans ce témoignage de Gérald Botts, qu'effectivement, M. Trudeau voulait sauver les 9 000 emplois de SNC-Lavalin, que personne n'avait demandé à Mme Jody Wilson-Raybould de trancher, juste d'avoir un avis extérieur. On a appris aussi pourquoi elle a perdu son poste à la justice pour se retrouver aux anciens combattants. C'est qu'elle avait refusé les affaires autochtones parce qu'elle-même est autochtone et elle ne croit pas à la loi sur les Indiens. Donc, elle ne voulait pas avoir à appliquer cette loi-là. Et donc, si ça ne se fait pas refuser dans un gouvernement, si tu refuses, c'est comme si, comme ministre, tu imposais un droit de veto à ton, par rapport à ton premier ministre. Donc, la confiance était rompue entre le premier ministre et elle s'est ramassée donc aux anciens combattants. Et ce n'est donc pas à cause de SNC-Lavalin dans la version de Gérald Botts. Et aussi, donc, ça semble très important dans l'histoire et dans l'état d'esprit de Mme Raybould dans la version de Botts. Alors là, c'est un témoignage, donc, qui vient jeter un éclairage différent, mais comme on se le disait, trop tard. Il n'a pas sauvé, il a donné une version acceptable pour les libéraux, mais il n'a pas sauvé la peau de Justin Trudeau ce matin.
Notamment lorsqu'il a dit qu'il comprenait mal pourquoi Mme Wilson-Raybould s'entêtait à refuser d'obtenir un avis légal.
Oui.
Il a précisé que c'était une nouvelle loi, elle n'avait jamais été testée d'ailleurs, on aurait pu y avoir recours. Moi, je l'ai trouvé très solide parce que il disait, ça donne quand même un éclairage plus important sur le comportement, enfin,
exactement.
La façon dont Mme Wilson-Raybould a reçu ce qu'elle croyait, elle, être des pressions.
Oui, mais tu vois, il y a une semaine, peut-être que ça aurait été correct, mais là, c'est trop tard. Et maintenant, la balle, elle est dans la cour de Justin Trudeau, qui va s'exprimer peut-être plus tard aujourd'hui, peut-être demain matin, mais là, vraiment, le temps presse. Et comment va-t-il reprendre le contrôle de l'ordre du jour politique de cette affaire-là? Un mea culpa, on se le disait, ça aurait été bon il y a plusieurs semaines. Là, c'est vraiment trop peu. Il ne peut plus s'auto-accuser. C'est trop tard. C'est rendu trop loin. Une conférence de presse, c'est pas assez officiel. Ça va prendre vraiment une communication choc, solennelle, forte, où il va devoir se présenter non pas comme chef de parti, mais comme premier ministre, parce que ça engage vraiment, vraiment trop. Et ça a assez duré. Ça fait 5 semaines. Pour lui, c'est dramatique. Mais est-ce que sa vérité sera entendue? Parce que son image est vraiment, j'allais dire, biaisée. Son image est ruinée dans
à l'extérieur
le reste
du Québec.
Canada.
Il a déjà été jugé.
Exactement.
Il a déjà été jugé.
Il y avait des unes de journaux vraiment ce matin qui étaient extrêmement fortes. Je pense que c'était dans le Toronto Sun. Une prise, deux prises, trois prises. Il est out. C'est quand même après l'imposteur d'hier. C'était vraiment du McLean. C'est vraiment beaucoup. Alors, il est en train de devenir l'image même de ce que le reste du Canada appelle la corruption à la québécoise. Il est en train d'incarner ça.
Rappelle-toi, la corruption à la Bonhomme Carnaval.
Ben
à
oui,
la
c'était
Lune.
Le McLean, encore
du
une
McLean.
Fois. C'est toujours le McLean a une dent, visiblement, et un dentier complet contre le Québec. Et là, Justin Trudeau incarne ça pour eux et pour une grande partie du reste du Canada. Donc, il est en train de devenir, même pour son parti, il commence à devenir lourd. Il commence à les plomber vers le bas. Les sondages, je te l'ai rappelé hier, je te le rappelle aujourd'hui, donnent maintenant les conservateurs en position majoritaire. Il reste 8 mois. C'est court, c'est long, 8 mois. Mais toujours est-il que le vrai Trudeau va devoir, quand il va s'exprimer dans quelques heures ou dans une journée, il va devoir être phénoménal. Or, le vrai Trudeau, une fois que tu as enlevé les déguisements, les chaussettes, les Sunny Ways et les licornes, il reste un petit peu de vide.
Mais c'est ce que dit le Canada
anglais. La tâche, est, oui. Ben, je te dirais que nous, au Québec, oui. On le savait.
Ben, un petit peu. Mais quand on se déguise trop, c'est peut-être pour cacher... le fait qu'il n'y a pas grand-chose en dessous.
Peut-être.
Il y en a qui disent ça. Mais
il va devoir être phénoménal.
Il va être phénoménal à partir du moment où il va être honnête. Mais quand je dis honnête, parlez franchement. Parlez franchement. Il faut qu'il sorte. Mais comme tu l'as dit, est-il trop tard? Ça pourrait être ce soir.
Ouais.
Et peut-être demain, disait Bernard Drinville ce matin.
Alors, mais il faut que ça cesse.
Alors, le grand califat...
Ah oui.
Le grand califat de l'État islamique est réduit à une toute petite poche de résistance sur quelques centaines de mètres carrés seulement. Mmh. Donc, l'État islamique est sur le point d'être complètement, complètement vaincu. Que va-t-on faire maintenant de ces djihadistes étrangers, dont certains Canadiens qui sont allés combattre, et qui voudraient revenir au Canada ou dans d'autres pays?
Oui, c'est une question qui se pose en France. Ils sont vraiment pris avec ce questionnement-là. Il y a eu des sondages. À peu près 82% de la population ne veut pas les voir revenir. Et certains, quand on annonçait des décapitations ou des exécutions d'otages, la voix française, c'était justement un Français qui était là depuis des années, qui était en Syrie. Donc, il y a des Anglais comme ça, il y a des Canadiens. On estime qu'au Canada, il serait encore 190 à l'étranger, principalement en Syrie, en Irak. Une soixantaine serait déjà rentrée. Et d'après des groupes qui s'occupent de ça, leur niveau de dangerosité serait faible, mais la preuve de leurs actes, ce qu'ils ont fait vraiment là-bas, est impossible à faire. Tu comprends? C'est trop dangereux pour la GRC, par exemple, les enquêteurs de la GRC, d'aller voir ce qu'ils ont fait. Et les conditions là-bas sont complètement... c'est la désolation la plus totale. Comment prouver ce que ces enrôlés, ces militants islamiques ont fait? C'est extrêmement difficile. Alors, faut-il les accueillir? En théorie, ils pourraient rentrer au Canada en vertu de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. En pratique, c'est un petit peu moins simple. Ils devraient être jugés dans le pays où ils ont commis des crimes. Puis là encore, quels crimes ont-ils commis exactement? S'ils reviennent, sont-ils dangereux? Sont-ils encore croyants, entre guillemets? Croient-ils encore en ce califat? Sont-ils réformables? Est-ce qu'ils représentent un danger, un risque? Est-ce que leurs croyances pour lesquelles ils ont quitté une vie confortable ici et qui sont allés combattre de manière absolument atroce et sanguinaire, est-ce que ça s'éradique complètement des croyances pareilles?
Doit-il recevoir une absolution?
Exactement. On a dit, j'entendais une avocate spécialisée dire, il y a ici des familles soutenantes qui vont les accueillir. Oh yeah!
Ouais, yeah.
Accueillir quelqu'un qui est allé faire le djihad en Syrie. Oui. Il y a tout un ostracisme lié à Daesh pour les familles qui accueilleraient. Et puis, est-ce qu'on a les moyens, les ressources pour les déradicaliser? Et est-ce que ça fonctionne, la déradicalisation? Donc, seront-ils punis en vertu de quoi? De quelles preuves? Et il y a toute la question, Paul, des femmes et des enfants,
ça,
qui est une question fascinante.
Ça, c'est très
en
important.
Soi. Ce sont des femmes qui n'y sont pas allées innocentes. Elles savaient dans quoi elles s'embarquaient. Elles savaient à quoi elles contribuaient. J'entendais une de ces Canadiennes dire hier dans un reportage, « Oui, mais moi, j'étais juste mère de famille. » Hey, ça s'appelle quasiment des troupes de soutien, littéralement. Elle faisait de futurs soldats du califat, et c'est vraiment comme ça, ça a été documenté. On faisait des enfants pour continuer à combattre dans ce califat qui allait demeurer des siècles et des siècles. Un reportage sur France 2, il n'y a pas longtemps, en caméra cachée, on interviewait, on enregistrait les femmes à leur insu, et elles se disaient toujours militante. Vous allez voir, je suis toujours militante et j'y crois. C'est complètement fou, cette affaire-là. Donc, on ne devrait pas faire l'économie du débat. On est en général assez naïf. Souviens-toi de ces deux jeunes du Cégep Maisonneuve qui voulaient s'en aller faire le djihad en Syrie, qui ont été interceptés et qui ont eu un job dans un centre de déradicalisation. On est un peu naïf. On est un peu naïf au Canada.
Sous prétexte qu'ils connaissaient ça.
Exactement. Ben oui. Ils avaient une compétence là-dedans. Donc, un débat qu'on va vraiment, comme les autres pays, devoir faire. Est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on recueille les ex-soldats du djihad ou ils doivent être jugés sur place?
Oui. Nous, on va s'interroger. Le président des États-Unis ne s'est pas interrogé
non,
longtemps.
Non, pas tellement.
Quand il a été questionné là-dessus, il a eu son avis en voulant dire son parti qui reste là-bas. Alors donc, c'était... Mais il n'y avait même pas de discussion, là, à savoir si on doit les rapatrier, les
déradicaliser, quel danger représente-t-il?
Lui, c'était beaucoup plus facile de régler la question qui reste là-bas.
Oui, en général, il a trois lettres, un mur.
Oui, ben oui.
On va les emmurer, finalement.
On pourrait les emmurer.
Merci beaucoup,
Marie-France.
À demain, Paul.